Donc le Mashiach, le temps de Yemot HaMashiach, aurait pu commencer dès le lendemain de la destruction du temple. C'est il y a 2000 ans. Okay? Et puis en fin de compte, nous voyons que nous sommes à la fin de ces 2000 ans. On n'a pas mérité. Mais ça nous est donné à la fin. Est-ce que c'est clair? Vous me suivez bien, bien sûr. C'est-à-dire que finalement, le temps du Mashiach arrive avec, à la fin, avec la loi des temps. Si nous avions mérité, d'après cet enseignement de la Gemara, pendant 2000 ans, le monde aurait pu être en temps de Yemot HaMashiach. C'est pourquoi le Maharal que je vous cite ici veut expliquer cela. Parce que nous voyons dans tous les enseignements de la Gemara, ça dure depuis la Mishnah, pendant des siècles, au début, l'enseignement est, il y a les deux éventualités. Si on mérite, ça vient tout de suite. Baragala ou Mizman Kari, Bumera et Amélie. Okay? Si on ne mérite pas, ça viendra en son temps. Et au fur et à mesure que le temps passe très rapidement, on voit que les enseignements de la Gemara, je parle des Tanaïm, des Amoraïm, s'habituent déjà à l'idée qu'il y a une seule des deux éventualités qui va arriver, c'est-à-dire que ça arrivera en son temps. Et c'est pourquoi on a interdit de calculer la fin, parce qu'on était trop loin, on aurait pu perdre patience. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez bien compris ça. Au début, il y a une sorte d'alternative possible. Vous connaissez peut-être dans la Gemara de Sanhedrin, Zachar, Achishena, Lo Zachar, Beita. Et puis voilà que très rapidement, on s'aperçoit que tous les enseignements sont donnés que ça viendra Beita, parce qu'on n'a pas mérité Achishena. C'est clair? Vous devez faire peut-être un petit chidouche. Comment vous écrivez Beita? Aïn, Yud, Ta, Beita en son temps. Okay? Alors mettez un texte, qu'est-ce que ça devient ce Beita, Lozacha Beita, à coup de pied. Okay? Faites bien attention à ça. Et vous avez compris. Okay? Et ça veut dire que si ça doit arriver par le temps, ça arrive à coup de pied. Aïta. À quel test? Méfiez-vous, vous allez rater le dernier autobus. Et alors, le problème est très clair. C'est que, au fond, finalement, le Yemot HaMashiach aurait pu durer très, très longtemps. Mais en fin de compte, ça ne nous sera donné qu'à la fin, du sixième. Enfin, du sixième millénaire. Puisque vous voyez que nous sommes bien à la fin du sixième millénaire. Vous voyez que les événements arrivent. Bon. Alors voilà quelle est la situation ici. Lorsque tous les sursis ont été traversés, jusqu'en fin de compte, les sursis de 120 ans qui sont donnés à Noir, vous connaissez ce que dit le Midrash, pendant 120 ans, Noir construit une arche et l'humanité entière finit par lui demander qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Et il leur explique, vous savez, le jugement va arriver, le déluge va arriver, alors je fais un abri pour nous mettre à l'abri. Ayez peur, faites repentir et venez me rejoindre. Et le miracle est très clair. Tout le monde se moquait de lui, Shundava, nous avons l'arche, édition du FFDU, et puis. Donc. Et alors, le sursis de 120 ans s'achève. Et Dieu accorde quand même un sursis supplémentaire de 7 jours. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 jours, dit le miracle? Matkivam, Shechivat, Ayami, Maël. Premier miracle que je vous dis. Dans la Gemara de Sanhedrin, page 108, B. Premier midrash. Mais la maître, Sheshina Akadosh Baruch Hu Alem, Sidre Bereshit. Sheaita Hama Yotzet Mi Ma'arav, Veshukahat Ben Mizrah. Et ça veut dire, on apprend que ces 7 jours-là, l'ordre des lois de la nature a changé. Alors que d'habitude, le soleil se lève, où il se lève d'ailleurs à l'est. Hein? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Pendant ces 6 jours-là, ces 7 jours-là, le soleil s'est levé à l'ouest et s'est couché à l'est. Premier midrash. Je préfère vous citer les trois d'abord et ensuite les expliquer un en relation avec l'autre. Deuxième midrash. Mativam Sheshivatayamim. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces 7 jours? Chez Itaimam Akadosh Barokhu, Me'en Arolamaba. C'est que pendant ces 7 jours, Dieu a fait goûter au monde quelque chose de l'ordre de Olam Haba. Le monde, pendant ces 7 jours, était un monde plein du chauffard de brachot, plein de bénédictions, comme le temps de Yemot HaMashiach, qui sont Me'en Olam Haba. C'est clair? Kede Sheyedou, Matova Shemano, Shemano Me'en. De telle sorte qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont perdre. Vous suivez ? Ça, c'est le deuxième midrash. C'est-à-dire, à la fois, il y a là, dans ce midrash, il y a deux dimensions. À la fois, une sorte de, comment dire, de bien qu'il aurait fait. Ils vont recevoir la bénédiction de Mehen Olam Haba. Première dimension. Deuxième dimension, mais c'est donné sous forme de punition. Ah, vous n'avez pas voulu mériter, alors maintenant vous allez voir, qu'est-ce que vous allez faire. Le châtiment est beaucoup plus grave que si on ne l'avait pas dévoilé, qu'est-ce qu'il risque de perdre. Est-ce que c'est clair? Pour la première dimension, c'est important à comprendre. C'est que, quel que soit un rachat, il n'est pas possible qu'il n'ait pas fait une mitzvah dans sa vie. Ne serait-ce que d'avoir accepté l'existence. Puisqu'il obéit à la volonté du Créateur, en existant. Et par conséquent, il a droit à la récompense de sa mitzvah, il a droit à la récompense de sa vertu. Vous suivez ? Donc, d'une certaine manière, ce temps du monde de Mehen Olam Haba, à la manière du monde à venir, lui avait donné comme récompense de ce qu'il peut y avoir eu comme mérite pendant tout le temps de la vie. C'est clair jusque-là ? Mais d'un autre côté, il y a cette deuxième dimension de châtiment, de leur montrer ce qu'ils risquent de perdre. Et en fin de compte, on apprend que ces 7 jours, troisième midrash, qui est dans la Gemara du Rushalmi, que ces 7 jours, c'était les 7 jours du deuil de Metushelah. C'est-à-dire, nous avons un grand principe que vous avez certainement étudié d'autre part, que lorsque, dans une certaine génération, c'est vrai pour la génération, c'est vrai pour la ville, il y a des tzadikim, les tzadikim protègent la société, là où ils sont. On pourrait développer cela dans beaucoup de dimensions, et il y a un honneur qui a été fait à Metushela, le fait que il y a eu une attente supplémentaire, un sursis supplémentaire de 7 jours, pendant les 7 jours de deuil du tzadik qui était Metushela. Vous savez que Metushela est appelé en français Matusalem. C'est-à-dire, tant que Metushelah est vivant, alors Dieu n'aura pas le déluge. Mais lorsque vraiment tout le sursis a été épuisé et qu'il faut envoyer le déluge, alors le signe, c'est que Metushelah va mourir. Mais Metushelah est un tzaddik, alors on lui fait honneur, et il y a 7 jours de sursis qui sont les 7 jours de deuil de Metushelah. Alors, je vais reprendre donc ces trois midrashs. Le premier nous donne un peu la clé de l'explication. C'est-à-dire, l'idolâtrie avait commencé avec la génération de Enoch. Et lorsque l'humanité devient idolâtre, elle répudie, elle rejette la moralité. Et qu'est-ce que c'était que cette idolâtrie? C'est que le monde est régi par les lois de la nature. Qu'il n'y a pas un juge, qu'il n'y a pas une ashgaha, qu'il n'y a pas une conscience qui nous juge. Que le monde est une sorte de machine qui évolue par elle-même. Et vous voyez pourquoi toujours l'idolâtrie et l'immoralité, ça va ensemble. C'est-à-dire quelqu'un qui a une conception du monde de ce type, que le monde c'est une machine impersonnelle qui fonctionne d'après ses propres lois, finalement ne peut pas être lié à la conscience morale. Parce que la conscience morale, c'est la conscience que mes actes ont un sens moral qui est jugé. Est-ce que c'est clair? Vous connaissez cette expression qui définit comment on dit en français, le Kfira.
Hein?
C'est plus qu'hérésie. Qui définit la mécréance. Hein? Let din velet dayan. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge. Là, c'est ça la définition de l'athéisme matérialiste. Hein? Et il n'y a pas un juge qui juge l'histoire. Le monde fonctionne d'après des lois impersonnelles. Okay? Et alors, comprenez bien ça. Enfin, je suis obligé de parler très rapidement. Tout à l'heure, s'il y a des questions, on essaiera de les comprendre. Et alors, quelle est cette conviction? Et vous savez, vous avez appris que toutes les religions païennes de l'Antiquité étaient des religions astrologiques. Cette conviction que le monde fonctionne selon des lois impersonnelles et que l'histoire humaine, la vie humaine, est soumise à ces lois impersonnelles à la manière des animaux ou des objets, cette conviction est tellement enracinée que finalement, le repentir des hommes n'est pas possible. Alors, Dieu nous dit ce midrash, a changé l'ordre des lois de la nature, de telle sorte de dévoiler l'erreur qu'il y a dans cette conception. C'est clair? Nous avons déjà la première illustration, préfiguration de ce qui va se passer pendant les 10 plaies au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que l'humanité a la preuve que les lois de la nature ne sont que, je ne veux pas dire une apparence, que ne sont qu'un niveau du monde nécessaire mais provisoire. Nécessaire parce qu'il faut que le monde fonctionne, mais que c'est une apparence qui cache la présence de Dieu comme quelqu'un qui juge l'histoire. Est-ce que vous comprenez bien la différence? Alors, pour aider l'humanité à se repentir, alors Dieu fait se lever le soleil de l'autre côté. Est-ce que vous avez bien compris l'idée? Vous pouvez l'analyser autrement, mais je crois qu'elle est suffisamment claire. Il faut aider l'humanité à se sortir de sa pensée déterministe, astrologiste, athée matérialiste, en lui donnant la preuve, l'expérience que les lois de la nature ne sont pas un absolu, qu'il y a quelqu'un derrière. Alors, imaginez de notre temps, si vous voulez, que finalement il arrive cela. Alors qu'on est tellement habitué à ce que le soleil se lève d'un côté, subitement on se réveille un jour et pendant une semaine le soleil se lève de l'autre. C'est un clin d'œil d'en haut. Vous savez, je suis là. Alors attention, c'est clair. Bon. Et malgré cela, le sursis n'a pas été efficace. Malgré cela, il y a eu entêtement. Bon, je résumerai ici les suprêmes grâces de cette première manière. Le temps de Yemot HaMashiach, dont nous avons ici une illustration, c'est ce jour-là. C'est le temps des miracles. Okay. Et où le monde marche à l'envers, c'est-à-dire à l'endroit, parce que c'est maintenant qu'il marche à l'envers. Oui, c'est un temps du monde où les hommes peuvent avoir directement l'expérience que le miracle se dévoile. Et malgré cela, ils s'entêtent. Et pendant ce temps-là, où les lois du monde sont bouleversées, c'est un autre ordre qui apparaît, et d'un monde en ordre. C'est-à-dire d'un monde plein de brachot. C'est le deuxième ouvrage, un monde qui est, mais voilà, moderne. Comme au temps de la sortie d'Égypte. Au temps de la sortie d'Égypte, l'ordre habituel du monde est bouleversé, et dans ce bouleversement de l'ordre habituel apparaît un autre ordre, où le monde est comme il devrait être. C'est le temps des 40 ans du désert, où vous savez que le problème économique était supprimé. Israël, dans le désert, n'avait pas de problème économique. C'est vrai que la manne descendait du ciel, on n'avait pas besoin d'armée, les Anané Kavod protégeaient Israël, vous savez ce que c'est les Anané Kavod, il y avait le puits de Myriam, Vechenal. Et il y avait un temps de Bracha, un temps de Shefa. C'est 40 ans du désert, c'est un temps de Yemot HaMashiach, d'une certaine manière, que nous trouvons ici expliqué à propos des 7 jours qu'il est quotidien. C'est pourquoi vous pouvez trouver dans la Gemara, dans la Midbar, et la M qu'elle est claire. Parce qu'ils l'ont déjà eu. Donc, ils n'ont pas besoin. Et ça, c'est le deuxième ouvrage. Et puis, finalement, vous rattachez à l'indication même donnée par le verset, c'est le fait que dans le monde entier, il y a eu un grand deuil. Mais tout cela est mort. Et même cela n'a pas pu servir de leçon. On a entendu cela dans le monde. Le tzaddik n'est plus là. Et une humanité même dégradée, même pervertie, lorsque un être d'exception qui est le tzaddik, son histoire apparaît à l'échelle du sens général de l'histoire humaine, ça aurait dû les aider à faire le monde. Ces trois choses n'ont pas pu. Alors Dieu se résout à envoyer. Est-ce que c'est clair? Donc, premièrement, bouleversement des lois de la nature. Deuxièmement, on a vu qu'est-ce que c'est un monde vrai. Troisièmement, on a découvert que le tzaddik, ça existe, et malgré tout, on n'a pas fait teshuva à leur enfant de Dieu. Alors voilà pourquoi je vous ai cité cet ensemble d'enseignements, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que tous les prophètes ont prophétisé pour un temps devant la masée qui est Yemot HaMashiach, et qui doit être la récompense de ce qui se relie avec le destin du Tamid Chacham. Le Tamid Chacham lui-même, Aïn Orata, c'est le Olam Haba. Ça a été clair jusque-là? Bon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus de façon précise? Sinon, on avancera un peu. Est-ce que tout le monde a bien compris?
Il semble y avoir une différence entre ce que la Gemara promet et ce que le Midrash enseigne, puisque les gens qui aident les familles des Chachamim à être familles des Chachamim, ce sont des tzadikim, et qui ont un zokout, un mérite. Ici, la génération était en grande partie corrompue, et ils ont quand même mérité, si je veux dire, entre guillemets, d'avoir Yemot HaMashiach.
Oui, mais ils ont eu un Yemot HaMashiach de Tochacha. Ils ont eu 7 jours de Yemot HaMashiach avec cette ambivalence que j'ai signalée tout à l'heure. En même temps, on leur donne récompense du peu de mérite qu'ils ont quand même.
Ça voulait dire que de toute façon, il suffit qu'il y ait dans la génération un minimum de gens avec un minimum de mérite pour que ça permette à l'humanité, avant de disparaître,
d'avoir droit. C'est certain. Mais là.
Donc, la différence quand même avec la Gemara, qui elle est c'est le cas limite supérieur de la Gemara, et dans le Mikra, c'est le cas limite inférieur.
Oui, voilà au fond la différence. C'est que ces 7 jours de Yemot HaMashiach dont on nous parle avec Metushela, ce sont 7 jours de Yemot HaMashiach catastrophiques. C'est-à-dire ça c'est l'eschatologie apocalyptique, hein, dans la destruction. Tandis que le Yemot HaMashiach qui est promis dans notre Gemara, c'est un Yemot HaMashiach pas de la destruction du monde. C'est un Yemot HaMashiach qui mène à un monde heureux. Hein. C'est ça au fond la grande différence. Quoique, jusqu'au bout, l'alternative reste. Est-ce que le Yemot HaMashiach vers lequel notre Olam se dirige sera de la manière de Metushela ou est-ce qu'il sera de la manière de l'eschatologie heureuse, hein? Ça, personne ne peut répondre. Puisque vous connaissez cette grande tradition qu'il n'y aura plus de déluge. Mais il n'y aura plus de déluge d'eau. Mais qu'un déluge de feu, c'est possible. Est-ce que vous connaissez cela? Or, depuis la découverte de la fission atomique, tout est préparé sur la planète pour le Maboul Esh. Pour le déluge de feu. Donc ça dépend de toute façon du mérite. Si le mérite de la génération d'humanité est suffisant, alors nous nous dirigeons vers le Yemot HaMashiach sans catastrophe. Sinon, ce sera le Yemot HaMashiach de la catastrophe. C'est-à-dire pendant quelques jours, pendant quelques temps, on verra qu'est-ce que c'est que le chefard de l'abondance. Ce que ça aurait pu être un monde vrai. Les savants et les techniciens contemporains, vous entendiez parler de ces sciences qu'on appelle... la futurologie. Hein? Je ne parle pas des science-fiction anticipation. Ça, c'est déjà au niveau du halom. Mais de la futurologie, c'est-à-dire, on est en train de pouvoir voir qu'est-ce que pourrait être le monde de ces 7 jours-là. C'est-à-dire un monde avec le shefa des brachot. Que ce n'est pas un mythe, que ce n'est pas un rêve dans le sens imaginaire. Que c'est vraiment de l'ordre de la réalité que la planète pourrait être un Gan Eden. Hein? Et alors qu'on peut voir cela. Et voir que cependant, on se dirige vers la carte. C'est où, l'un ou l'autre, et ça dépend du. Est-ce que vous êtes bien compris?
Nous, l'avantage, c'est de dormir à vous, c'est que nous, on a une leçon quand même. On peut dire une leçon de ce qui s'est passé dans la boule.
Il y a une Gemara dans Khoulin qui pose la question, vous connaissez d'ailleurs, c'est dans la même Gemara que Esther Minatora Minaïm, Haman Minatora Minaïm, vous connaissez cette Gemara. La Gemara pose la question, Moshe Minatora Minaïm. Et elle répond, Lo yadon ruchi ba'adam, beshegam hu basar. Beshagam, la gamatria c'est la même que Moshe, et la gamara dit, Moshe, il y avait un Moshe en ce temps-là. Ils avaient aussi leur maître, ils avaient aussi leur leçon. Et malgré ça, ça a pu échouer. Bon, nous avons, ça c'est la Emouna. Nous avons la Emouna que, mais c'est Emouna que nous allons vers une. Un temps messianique, non de catastrophe, mais heureux, mais c'est Shemaï Romahet. Vous connaissez l'expression Shemaï Romahet. Ça va dépendre du mec, c'est où ça. Je ne veux pas trop vous affoler, c'est pour un Erev Shabbat, mais c'est vraiment où ça. Je crois que c'est ça qu'il faut mettre en évidence. Effectivement, nous sommes déjà en train d'expérimenter un peu ce dont parle ces midrashim là. C'est-à-dire de percevoir qu'est-ce que pourrait être un monde heureux et de risquer de le faire. Ok? Vous voyez? Vous devez poser une question tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Oui? Vous devinez la réponse? Vous avez mangé du poisson. Hein? Bon, oui, je suis désolé. Mais j'ai envie de savoir d'après vous, donc si oui, il y aura encore un Maboul Esh, ce sera porté par l'ordre. C'est-à-dire que le premier Maboul, c'est Dieu qui a fait la naisse, je veux dire, de mettre de l'eau sur la terre, est-ce que là, ça serait nous-mêmes qui fabriquerions notre propre Maboul avec les mots atomiques? Oui. Et vous comprenez, la différence du procédé, c'est vraiment pas un problème à côté du résultat. Ça vient d'en haut ou d'en bas, sauf que ça nous fait une belle jambe. Non, ce que je veux dire, c'est que, simplement, nous avons la preuve que c'est possible. Nous avons la preuve que c'est possible.
Avant ce matin, vous parlez de 7 jours de Limut Tov. C'est-à-dire qu'on aurait une vision et ensuite. Donc tout le travail se passerait. Est-ce que tout le travail se passerait pendant ces 7 jours ou on doit. C'est une préparation pour les 7 jours pour Limut Tov.
Ah, ça, personne ne peut savoir exactement où nous serions dans un plan de ce genre. Les 7 jours, c'est ce que la Torah nous raconte concernant ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Okay. Simplement. Je me réfère à cela pour essayer de comprendre quelle est la fonction des Yemot HaMashiach dont on parle à Gemara. Okay? Parce que cette Gemara de Rabbi Yochanan est très étonnante. Quoi ? Pendant 2000 ans, nous, le peuple d'Israël, et à travers nous, cette espérance a diffusé dans l'humanité, de manière ou d'une autre. On attend Yemot HaMashiach, Yemot HaMashiach, et nous dit à Gemara tranquillement, Yemot HaMashiach, c'est pas pour Tamil Khamim. Tamil Khamim, on te n'offre ça, Olam Hazza. Aïno Esa, Aïno Rata. Vous comprenez, je veux dire. C'est pourquoi je vous ai cité cet enseignement que le Yemot HaMashiach aurait pu durer 2000 ans. Le Maharal en particulier, que je vous ai cité tout à l'heure, je crois que je l'ai cité il y a deux jours, nous dit, ne t'étonne pas si le Mashiach va venir qu'à la fin de ces 2000 ans. Parce que l'essentiel, c'est Triat HaMetim. Okay? On n'a pas mérité de vivre dans le temps des Yemot HaMashiach si longtemps. On aura à la fin un petit peu pour qu'on lui montre, voilà qu'est-ce que c'est. Mais je pense que c'est clair, il faut être très, très lucide. L'humanité est arrivée à un point où c'est à pile ou face, où c'est shalom et toutes les brachot, où c'est la catastrophe. Bien. Mais voilà que déjà, tous ces trois midrashim fonctionnent à la fois maintenant. Mais voilà que déjà on perçoit qu'est-ce que ça aurait pu être, un monde vrai. Un monde du shefa, un monde de plus que l'abondance, un monde où ça vaut la peine de vivre. Déjà, moi j'étais un peu plus jeune que votre âge, un peu plus âgé que votre âge, quand les premiers frigidaires. On sont capables. Imaginez, voir près le Shabbat. Okay? C'est le Mashiach qui est venu. Voir près le Shabbat. Tout ça, c'est déjà les promesses des Nevi'im qui arrivent. Okay? Je ne vous dis pas des blagues. Enfin, la technique humaine, s'il y avait une moralité suffisante, a suffisamment de capacité pour transformer la planète en paradis. Okay? Je ne sais pas si vous pouvez ça comprendre ce que ça veut dire, ça. La Hana'a de voir près le Shabbat. C'est grâce à quoi? C'est grâce au frigidaire. C'est de ça que le prophète en parlait. En tout cas, en ce qui concerne, il y en a aussi. C'est clair ?
Alors, une fois de plus, là aussi, vous diriez que la baba sera apportée par l'autre, par le progrès technique, quoi.
Écoutez.
C'est nous-mêmes qui nous formerions soit le maboul, ouais. Soit la baba. C'est pas. Enfin, le jour où il fait rien, non ?
Quand
il
fait tout.
Non, mais.
Vous croyez que.
Si jamais c'est le progrès technique,
il va avoir. Mais. Ça veut dire que Dieu, c'est Dieu qui a créé l'homme capable de se projeter. Et personne sur Terre ne peut bouger le petit doigt et faire quelque geste que ce soit sans que ce soit Dieu qui le fasse. On comprend bien comment ça passe. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser un peu de l'imagerie des contes de fées, hein, et prendre les choses au sérieux. Quand la Torah nous dit que c'est Dieu qui a créé l'homme, par conséquent, ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu qui le fait. Nous en sommes responsables, mais c'est lui qui l'a fait. Essayez de comprendre un peu, vous êtes peut-être encore un peu trop jeune pour ça, mais je ne sais pas dans 7 jours ce qui va se passer, mais quand vous serez un peu plus expérimenté de la vie, vous verrez cela. La chose extraordinaire qu'il y a, de la différence qu'il y a entre un être vivant et son cadavre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du miracle qu'il y a qu'un être vivant peut faire travailler sa main. Le cadavre a le même corps, il bouge. Alors, où est la différence? Qui c'est qui fait ça? Mais Hayamiti. C'est Dieu qui fait ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, là, c'est clair. Je me rappelle la première fois que j'ai appris cette chose-là. Regardez ce qui se passe. Je veux lever ma main et elle se lève. C'est un miracle que personne ne peut expliquer. Comment ça se passe? Je veux et elle se lève. La magie. Mais qui c'est ça? C'est pas ma main. Vous voyez? Bon.
Des fois je veux et elle ne se lève pas.
Quoi?
Des fois je veux et elle ne se
lève
pas.
Bien sûr. Elle te demandait pourquoi.
C'est
qu'à ce moment-là qu'on se demande pas. C'est à ce moment-là qu'on se demande. Et le. Je voulais quand même relire une chose importante à ce sujet. C'est. Mais ça m'échappe. Repose ta question, peut-être ça me revient.
Je me demandais que, si, mais d'après vous, ça serait nous-mêmes qui apporterions notre propre lavabage. Je veux dire, évidemment que Dieu.
On parle de Yamada Mashiach.
Yamada Mashiach, évidemment que dans tout ce qu'on fait, Dieu intervient.
Moi,
j'aurais juste pensé qu'il y avait une information plus directe.
Oui, c'est ça. Alors, justement, je crois que là, on est sur un problème très important. Très important. Et il faut se débarrasser de l'image. Et je profite de l'expression que tu as employée. Ce serait quand même joli, hein, que le soleil se lève de l'autre côté. Ça, c'est un miracle plus spectaculaire que le plus divers. Mais n'oubliez pas une chose. C'est que nous vivons dans une culture qui est très imprégnée de la mentalité chrétienne. Et il faut se débarrasser de l'image de chrétienne. Le Dieu de la Bible que reconnaît Israël, c'est le créateur du monde. C'est le créateur du monde comme il est. Lorsque les prophètes qui parlent au nom du Dieu créateur parlent d'un monde qui se transfigure et qui devient un monde en l'âme ketikuno, ça se produit à travers la volonté du créateur, c'est-à-dire les lois de la nature. Débarrassez-vous des imageries magiques, des imageries païennes. Vous voyez, tout de suite, quand, dans la mentalité chrétienne, on parle du Mashiach, tout de suite, vous voyez une image. Hein? Un homme vêtu de blanc sur un âne blanc. L'imagerie, le paganisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mashiach? C'est le chef de la société d'Israël. Regardez bien vos textes. Faites bien attention. Je pense que c'est clair. Débarrassez-vous de cette image. Alors, d'ailleurs, dans cette même alternative, Zaha, Achishena, Zaha, Beïta, c'est que s'il y a un mérite suffisant et que le temps vient très rapidement, il vient dans des miracles spectaculaires. Mais s'il vient en son temps, il vient par des miracles cachés. Mais les miracles cachés sont beaucoup plus importants que les miracles spectaculaires. Je vous expliquerai ici une petite gemara, vous avez certainement entendu qu'à la fin des temps, de toutes les fêtes, on ne pratiquera plus que pour Rime. Pourquoi ? Parce que ça commémore un miracle caché. Le miracle caché est définitif. Tandis que le miracle spectaculaire, c'est pour son temps. Vous voyez ? C'est pas paradoxal. D'un autre côté, il y a là une force beaucoup plus grande. Et alors, voilà donc ce que je voulais vous citer. C'est un enseignement du Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero, dans Tomer de Voila. Et sur la face que j'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement important. C'est que c'est Dieu qui fait tout. Et c'est nous qui sommes responsables. Et est-ce que c'est clair? Vous voyez quel est apparemment le paradoxe. Et le Rama dit ceci, c'est la raison pour laquelle une faute c'est si grave. Parce que c'est moi qui fais la faute, mais j'oblige Dieu à la faire à travers moi. C'est clair. Dans une conscience, vous voyez, laïque, athée, une faute c'est grave, un point, pas plus. Dans une conscience religieuse, une faute prend une dimension, une harmonique de gravité beaucoup plus grave. Pourquoi ? À cause de cela. Parce que nous savons que l'homme ne peut rien faire si Dieu ne lui fait pas faire. Alors quand l'homme fait une faute, imaginez le blasphème. Parce qu'il oblige celui qui fait exister tout à laisser faire. Je dis bien à laisser faire ça. Pour être bien précis, la Gemara dit, celui qui vient pour purifier, on l'aide. On fait avec lui. Celui qui vient pour rendre impur, on ouvre la porte. On ne fait pas avec lui, on ouvre la porte. Enfin, quoi qu'il en soit, le Ramak met l'accent là-dessus. Est-ce que c'est clair? Non, on te met le. Mais il enseigne à partir d'une vertu très importante, qui est la vertu de la patience. Et en nous l'expliquant de la manière suivante. Et vous connaissez l'expression que Dieu est Nosé Avon. Nosé Avon, ça veut dire qu'il porte la faute. Mais dans quel sens? Il enlève. Nosé Avon, pardonne. Alors le Ramak nous dit, il faut lire ça, pshat. Il est nocé qu'on a remonté nous. Il porte et il supporte. Alors le Ramak ajoute, c'est clair? Le Ramak ajoute. Et si déjà Dieu lui-même a de la patience avec tous les chahim comme ils sont, toi, tu dois avoir de la patience. Vous voyez le c'est-à-dire d'apprendre la mida de Erech HaPaim de l'expression nocé avant. Bon, ceci pour illustrer ce que nous avons dit. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on avance vers la deuxième.
J'ai une question, c'est que Maurice vous a dit, que vous l'avez approuvé, il a dit que ce serait les hommes qui amèneraient eux-mêmes l'imote à la vie d'une dans les villes, les cités, dans les Cheskel, on voit bien que c'est Akash Borpo qui dit Kim Beshem Kochik. Simplement par mon nom saint, je ferai venir, je ramènerai les Juifs en Israël. On y parle de la guerre entre avec Gog et Magog. Et il dit simplement, c'est grâce à mon mérite à moi, pour que mon nom soit entendu.
Chaque fois qu'il est répété, tu as paraphrasé et tu as interprété. Mais réfère toi à la source, au Makor, comment c'est écrit?
Kim
Beshem Kochik. Shemi Nikra Alecha. À partir du moment où le peuple juif a décidé de s'appeler Israël, ce verset s'est accompli. Kim Beshem Kochik. Shem Israël Yechanel. Revenez à l'équation fondamentale. Eh bien, il y a un mérite suffisant. Alors, cela vient par le mérite. Et cela vient vite, du Meherav Yamenu. Et à travers des miracles dévoilés, des miracles spectaculaires, où on voit bien, à l'évidence, que c'est Dieu qui intervient, comme par exemple pour le soleil qui se lève de l'autre côté. Ou bien ça vient avec son temps, dans des miracles cachés, où c'est Dieu qui intervient, mais de manière cachée. Mais le résultat.
Mais Dieu veut dire que simplement pour répandre son nom sur toute la terre, qu'il fera venir le Moshiach et qu'il amènera ses paix sur la terre.
Ça veut dire, si vous ne méritez pas par vous-même, c'est moi qui le ferai. Bon, qu'est-ce que c'est si vous ne méritez pas? Si les événements doivent arriver en leur temps. Mais le grand mérite d'Israël, c'est d'exister pour que les événements arrivent en leur temps. Et quel est le nom de Dieu de la Bible? C'est le Dieu d'Israël. Vous ne remarquez pas que depuis une trentaine d'années, le nom d'Israël est dans tous les journaux du monde. Et chaque fois qu'il y a une lettre qui arrive d'Eret Israël dans le monde entier, on sait que ça fait 5700 que le monde a été créé. Oui, que vous lisez sur un thème, quelqu'un a écrit. Réfléchissez bien à ces choses. Bien, il y a une autre question, je veux dire simplement. Et puis on a une demi-heure quand même pour avoir les temps. Vous avez vu jusqu'à midi et demi ou jusqu'à midi? Donc, je vais simplement vous rappeler quelque chose d'important. Vous rappelez de ce verset à propos de la sortie d'Égypte? Vahamushim alu bnei Israël meret Mitzrayim. Qu'est-ce que dit le Midrash à propos de ce verset? Que un cinquième des Hébreux sont sortis d'Égypte. Okay. Donc, on remarque aujourd'hui que, grosso modo, il y a un cinquième des Juifs qui sont sortis de la Bible. Donc, il y a une espèce de correction. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ils sont morts.
Vous savez, la dernière blague dans les yeshivot, en Israël, c'est que quand on doit aller en galoute, alors on dit Laïlato. Parce que c'est Laïlato. Est-ce qu'il y a une différence? Vous avez compris. Et alors, est-ce qu'il y a là une espèce de fatalité? Est-ce qu'il y a une espèce de mécanisme qui joue? Vous voyez, une sorte de loi de la Torah qui se lâche. Je ne voudrais pas trop analyser le problème. Nous allons dire un peu cette forme de chidouche. Il y a un verset dans le prophète qui dit « Mezare Israël et Kabetel ». Celui qui a répandu Israël les rassembleur. Okay. Alors il les a répondus avec les cinq doigts de la main, il les rappelle avec un « Etzba Elohim ». Et comment ça marche? C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est Dieu qui le fait. Alors il le fait d'après notre mérite. C'est-à-dire le véhicule par lequel ça passe, ça dépend de nous. Mais qui fait ça? Il faut vraiment être mystique pour croire que c'est les Juifs qui ont fait l'État d'Israël. Si ce n'est pas le Dieu des Juifs qui a fait ça, qui a... Vous comprenez ce que je veux dire? Puisqu'il y a le monde entier contre, comme disait le prophète. Et vous savez très bien qu'il y a le monde entier contre. Même vous, vous êtes contre. Ben, à chaque fois que vous allez en week-end et que vous remplissez votre voiture d'essence, vous ajoutez un igloo aux arbres des arabes. C'est pas ça. Chaque week-end, un juge de la Gola, c'est un obus plus dans les armées arabes. Pointé sur Jérusalem. Bien. Alors, on avance dans la démarrage. Attention, c'est pas une Gemara, c'est Zohar v'Acharonot. Et le Kusha v'Likhout Ravi, c'est le Chadou, c'est les Mefarshim, mais dans le Makor, c'est. En araméen d'ailleurs, c'est Kusha v'Likhout Ravi Israël, Mikashrin Zabeda. Kusha v'Likhout Ravi Israël, Mikashrin Zabeda. Alors, comment est la relation?
Avec Israël serait, c'est un peu difficile de trouver du vocabulaire en français, mais Israël finalement exprimerait dans notre monde ce qu'Hachem, il ne serait pas le porte-parole, mais enfin il serait l'expression de ce
qu'Hachem. Je comprends, la bannière.
Oui,
c'est sûr. Ce verset que tu as cité, c'est vraiment sympa. C'est l'Olamu Hachem, l'Olamu Ileshimcha, Tenkavod, tous ces versets-là. Et puis, qui chemi nikra alecha. C'est-à-dire, la réputation du nom de Dieu dépend d'Israël. Et bon, vous êtes nés après le temps où ça a commencé à arriver. Et vous n'expérimentez pas tellement qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a maintenant. Mais subitement, nous sommes dans la 30e année, subitement, la réputation du nom du Dieu d'Israël a changé dans le monde, à travers ce qui se passe dans le peuple. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est comme ça que ces versets s'appliquent, pas dans une imagerie païenne, dans le monde que Dieu a créé. Ke'ani rocher al-hamor. Léat, léat, on a fait la yelet ha-shachar. Doucement, après se dévoile. Vous voyez, Alors, fais bien. Mais à quoi ça ressemble? C'est que pendant 2000 ans, on s'est tellement habitué à attendre le Mashiach, et qu'est-ce qui nous arrive? Manger d'ailleurs. Alors que ça. Et c'est un peu ta réaction. Qu'est-ce qu'on attendait? Alors voilà une réponse qui vous fait comprendre. Il y a une femme qui a un enfant pendant 9 mois. 9 mois, ça nous a duré 2000 ans. Et puis elle attend, une espérance. L'enfant qui va naître. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Une espèce de petite larve toute pleine de sang, de boue, de douche. Ça veut dire que ça, mais c'est ça que t'attendais. C'est lui qui va grandir, Léa Pierre. C'est lui qui va devenir le Ben Adam. C'est pas quelqu'un d'autre. Alors, c'est exactement la même réaction. Quoi que ça, est-ce qu'une femme qui vient d'accoucher peut dire de son enfant qui apparaît que ça? C'est que c'est pas sa mère. Je pense que c'est tout. J'ai pas dit que Moshé Dayan était bien sûr.
De Heidelberg, comme moi, et son œil est là-bas. Bon, mais il y a ici quelque chose qu'on ne peut pas. C'est lui qui n'est pas un Talmud Raham. Disons un simple juif.
Oui.
Qu'on appelle un Amaretz, un Balmelacha. Je parle de fait, c'est que nous avons, lui, dans notre société en Europe centrale et orientale. Est-ce que. Ces gens-là, qui ne sont pas des Talmud Chachamim, et qui font partie des âmes Aratzim. Alors, je trouve que c'est une blessure profonde contre un juif qui sait, qui comprend qu'il n'est pas un Talmud Chacham, qu'il fait partie à la classe d'Amratzim. Je trouve que c'est lui qui est capable un peu de raisonner. Il se trouve profondément blessé, puisqu'on le comprend à Bahreïn.
C'est pour ça que pour le. Attendez, après je parlerai de. Il faut aussi être civilisé. C'est pourquoi la Gemara dit que c'est pour eux, ils ont droit à une compensation, ils n'ont pas vécu comme les Talmidei Chachamim. Après j'ai essayé d'expliquer un peu la différence. Ils n'ont pas vécu comme les Talmidei Chachamim, alors ils ont droit. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas. Alors ils ont droit une fois à un Olam. À un monde qui vaille la peine d'être vécu. C'est pour eux que les prophètes ont prophétisé. Mais pas n'importe quel Amaret. Celui qui collabore à la Torah. Comment? Soit en donnant sa fille au Tamir Chacham, soit ces trois dimensions-là que je reprendrai après. Vous pouvez comprendre la différence. Premièrement, tout Israël devrait être voué être Tamir Chacham. Kara, Mashé Kara, il est arrivé ce qui est arrivé. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Est-ce que parce que quelqu'un n'arrive pas à pouvoir, il est disqualifié? Non, cette Guémara le récupère. C'est clair. C'est pour eux que le Mashiach reviendra. Qu'est-ce que vous voulez de plus, okay? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ceci. Un juif, moral, pieux, shomer mitzvot, qui connaît le Chumash par cœur, la Guémara par cœur, c'est encore pas un Talmid Chacham. Mais c'est de ces juifs dont on parle, des juifs authentiques, Kdoshim, okay? C'est pas encore ça, Talmid Chacham. Je vous donnerai une explication qu'un. Mon père m'a donné un jour, j'allais dire un de mes maîtres, mais c'est vrai, qu'il a dit, on parlait une fois d'une chita. Il a dit, qu'est-ce qu'il sait? Toute la Guémara par cœur. Ah, mais arrête. Il faut voir où ça se passe. C'est-à-dire, quelqu'un qui connaît tout le chasse et qui n'est pas capable d'achidouche, c'est encore un amaret. Et connaître tout le chasse, vous savez, il faut le connaître. Okay? Et ce qu'on appelle Hamon no Sesparim, c'est-à-dire un homme chargé de livres. Il reste amaret. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Mais qu'est-ce que c'est? Il ne peut pas. Il n'est pas fait pour ça. La vie ne lui a pas permis d'être. Maintenant, qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham? Il faut aussi le tirer de cette définition. C'est pas n'importe qui fait semblant de lire. Hein? C'est pas n'importe quel Bachour Yeshiva. Je me rappelle la question d'hier soir, les compagnons de Lévin. Talmid Chacham, c'est Talmid Chacham. C'est pas un Batlan. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire un véritable Chacham. Et par exemple, on discute dans la Gemara, est-ce qu'au moment où j'étudie, le temps de Kriyat Shema est arrivé, il faut que je m'arrête d'étudier et pour dire Kriyat Shema? La Gemara dit, ça dépend qui tu es. Si tu es Torah Tam ou Manutam, que ta Torah c'est une vraie Torah, tu t'arrêtes pas. Mais si tu es Stam, alors là, bien sûr, tu t'arrêtes et tu fais la Tfila. Vous comprenez, si un gosse d'un Talmud Torah va dire, mais je suis en train de préparer la Shikhet, je m'arrête pour la Tfila, il dit, arrête-toi et fais ta Tfila. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il ne s'arrête pas pour faire la Tfila. C'est ma choix achère. Torah Tam ou Manutam. Vous comprenez la différence? Ça se voit. Il ne faut pas se prendre pour n'importe qui.
Il y a très peu.
C'est pourquoi il y a compétition. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, s'il y en a deux, c'est mon fils et moi. S'il y en a un, c'est moi. Ben Aliya, Mouati même. Mais il faut comprendre profondément ces choses-là. Mais... Et quand on les entend 2000 ans après ces choses-là, on comprend qu'il avait raison. Si on n'avait pas eu Rabbi Shimon Bar Yochai, on serait... Mais de toute façon, pour revenir à notre problème, celui qui n'est pas Talmid Chacham vit dans l'enfer. Qu'est-ce que ça, c'est le monde, ça, c'est l'enfer. Et il vit dans la Olam HaTevar comme une bête. Vous comprenez? C'est pas une question de dignité personnelle. Dafka, c'est sa dignité de s'en rendre compte. Et vous rentrez une fois dans un autobus, chaque fois que je rentre dans un autobus, j'ai envie de lire Tehillim. L'expérience qu'on a un peu à Jérusalem quand les touristes américains arrivent, américains, surtout les goyim d'ailleurs, la définition du zoo, un zoo, c'est des hommes qui viennent visiter des chayot. Les touristes qui arrivent à Jérusalem, c'est l'inverse. C'est les chayot qui viennent voir vivre les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est une expérience qu'on a profondément. Et ils ne s'en rendent pas compte. Alors, d'accord, celui qui s'en rend compte, c'est ça sa dignité. C'est-à-dire, la dignité de l'être humain dans le olam tel qu'il est, c'est de vivre dans un monde vrai, dans la vérité du monde. C'est de vivre dans le olam de la Torah. Le Talmid Chacham peut dire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Ha'ed. Derrière les apparences, il voit la vérité du monde. Mais celui qui n'a pas Talmid Chacham, il vit dans un enfer. Hein? Et voilà, c'est ça la vie. Okay? Alors.